Dès que l'on admet, comme nous l'avons vu ci-dessus, qu'il existe dans la vie sociale un ordre déterminé, on diminue nécessairement le rôle du législateur. Les institutions sociales, étant les conséquences de la nature des choses, ne dépendent plus de la volonté d'un ou de plusieurs citoyens. Or, tout au contraire, chez Montesquieu, le personnage du législateur se détache avec évidence, au point d'apparaître comme l'indispensable artisan des lois. En de nombreux passages, il parle des lois de Rome, de Sparte, d'Athènes, comme si elles avaient été créées de toutes pièces par Romulus ou Numa, par Solon, par Lycurgue. Quand, dans un autre livre, il raconte les origines de l'État romain, il pose en principe que les institutions des peuples naissants sont faites par les chefs, et que c'est ensuite seulement que les chefs se forment d'après les institutions. C'est la raison pour laquelle il distingue entièrement les lois des mœurs. Les mœurs naissent spontanément de la vie en commun, les lois ne peuvent exister sans avoir été établies par une volonté spéciale du législateur. Tel est le sens de cette pensée que l'on trouvera dans le premier chapitre du livre, « Fait pour vivre dans la société », l'homme y pouvait oublier ses devoirs sociaux s'il n'y avait été ramené par les législateurs. Sans doute, Montesquieu ne croit pas qu'on puisse faire des lois sur n'importe quoi et selon sa fantaisie. Il pense que les mœurs et la religion sont en dehors du pouvoir du législateur et que les lois même qui concernent d'autres sujets doivent être mises en accord avec les mœurs et la religion. L'établissement de ces lois n'en est pas moins au pouvoir du législateur. Il existe même des sociétés dans lesquelles non seulement les lois, mais même la religion et les mœurs peuvent être plus ou moins façonnées par le prince. Bien que ce fait ne se rencontre que dans des cas assez rares, on voit cependant par là quelle est, aux yeux de Montesquieu, la puissance de l'autorité politique. On le comprendra facilement pour peu que l'on étudie en quel sens il dit que les lois humaines résultent de la nature des choses. Formule équivoque qui comporte deux interprétations. Elle peut signifier ou bien que les lois sont issues de la nature des choses, c'est-à-dire des sociétés, comme l'effet sort de la cause qui l'engendre, ou bien qu'elles sont simplement des moyens qui exigent la nature de la société pour s'accomplir, c'est-à-dire pour atteindre sa fin, moyens qui peuvent cependant lui faire défaut. En d'autres termes, doit-on comprendre que l'état de la société est la cause déficiente des lois, ou bien seulement leur cause finale? Montesquieu ne semble même pas soupçonner le premier sens. Il ne dit pas que les lois de la démocratie naissent du nombre restreint des sociétés par une nécessité inéluctable, comme la chaleur naît du feu, mais que seules, elles permettent d'amener à réalisation la frugalité et l'égalité générale qui sont dans la nature de ce genre de société. Il n'en résulte pas d'ailleurs que les lois puissent être confectionnées arbitrairement, car certaines conditions sociales étant données, il n'est qu'un seul corps de loi qui lui convienne, et aucun autre ne pourrait lui être imposé sans altération de la société. Mais pour discerner ce qui convient à chaque peuple, il est nécessaire qu'il y ait des hommes capables d'examiner avec perspicacité la nature des choses, et de distinguer vers quel but ce peuple doit tendre et par quels moyens. Or, c'est là le rôle des législateurs. Rien d'étonnant donc à ce que Montesquieu leur attribue une certaine primauté. Supposez au contraire que les lois tirent leur origine de causes efficientes dont les hommes peuvent même être souvent inconscients, les fonctions du législateur se trouvent alors diminuées. Elles ne consistent plus qu'à exprimer plus clairement ce qui subsiste obscurément au fond des autres consciences. Mais il n'invente rien ou presque rien de nouveau. Même s'il n'existait pas, rien n'empêcherait qu'il y eût des lois. Elles seraient seulement moins bien définies. Elles ne peuvent être rédigées que par lui, soit, mais il est l'instrument qui permet de les établir plutôt que leur cause génératrice. Ce n'est pas ici le lieu de discuter la question de savoir s'il y a des institutions sociales qui dépendent tout entière de causes finales. Du moins, n'est-il pas douteux qu'elles sont extrêmement rares. La vie sociale contient en effet tant de choses qu'aucun esprit n'est capable de la saisir dans sa totalité. Aussi n'est-il pas facile de prévoir ce qui lui sera utile, ce qui lui sera nuisible. Quand même ce calcul ne dépasserait pas le plus souvent les forces de l'esprit humain, il est tellement abstru qu'il ne pourrait avoir grande influence pour mettre en mouvement les volontés. Les choses sociales ne se font pas d'ordinaire d'une façon délibérée. Les lois ne sont pas les moyens que le législateur imagine parce qu'ils y paraissent en harmonie avec la nature de la société. Elles naissent le plus souvent de causes qui les engendrent par une sorte de nécessité physique. Par suite des conditions dans lesquelles se trouve la société, la vie commune est déterminée à revêtir nécessairement une certaine forme définie. Or, ce sont les lois qui expriment cette forme. Elles résultent donc avec la même nécessité de ces causes déficientes. Si l'on conteste cela, il faut admettre alors que la plupart des choses sociales, et principalement les plus importantes, sont absolument sans cause. Jamais, en effet, il n'y eut d'homme qui, du petit volume de la Rome naissante, ait pu déduire les lois qui convenaient à une telle société. L'égalité et la frugalité que Montesquieu nous dit imposées par les lois, ce n'était pas celles-ci qui les avait créées. Issues de ce genre de vie, les lois ne firent que le consolider. Montesquieu aurait sans doute compris cela s'il s'était rendu compte que les lois ne diffèrent pas en nature des mœurs, mais qu'au contraire, elles découlent d'elles. Elles ne sont rien d'autre que des mœurs mieux définies. Or, personne n'ignore que les mœurs ne sont pas une institution volontaire, mais qu'elles sont engendrées par des causes qui produisent leurs effets à l'insu des hommes eux-mêmes. Aussi bien l'origine de la plupart des lois n'est-elle pas différente? Ce n'est pas à dire pour cela qu'elles soient sans utilité, bien au contraire, elles ne pourraient durer si elles ne jouaient dans la société certains rôles utiles. Mais ce n'est pas cette utilité qui les a fait naître. Bien loin d'avoir été visée, elle est communément ignorée. Nous sentons en effet que les règles du droit et des mœurs sont bonnes, mais si l'on nous demande à quoi elles tendent, les discussions n'ont plus de fin. S'il est donc permis de chercher de quelle façon telle ou telle loi est utile à la société, on n'explique pas par là d'où elle est issue. C'est pourquoi celui qui borne ses investigations aux causes finales des choses sociales laisse échapper leurs origines et mutile ainsi l'image de la science. Or, telle sera la science sociale si nous suivons la méthode de Montesquieu.